Alors, Clément appelle au repentir du cœur pour que soit restaurée l'autorité de la hiérarchie locale, qui est le fondement et la garantie de la paix et de l'harmonie de la communauté. Voilà, donc il montre bien l'importance de l'unité de la hiérarchie pour l'unité de la communauté chrétienne. Il avait montré, alors ça, il développe ça dans les chapitres 40 à 58 de sa lettre, ou paragraphe, disons. Et il avait montré préalablement, dans les paragraphes 4 à 39, puisque 1 à 3, c'est un préambule, il avait montré préalablement par l'écriture et l'histoire récente, notamment celle de Rome, de la communauté de Rome, combien la haine a nui à l'humanité et quel bien lui a procuré la concorde. Vous voyez? Alors le style de la lettre est judéo-chrétien. Voilà, il y a énormément de thèmes bibliques. En fait, c'est une sorte de lecture de la Bible sous cet angle de la division qui conduit à la mort et de la concorde qui conduit à la vie, en somme. Et en faisant des commentaires amplificateurs et actualisateurs des histoires anciennes de la Bible, ce qu'on appelle la Haggadah dans le langage comme genre littéraire chez les bibliques. Donc une sorte de commentaire scripturaire qui actualise en rajoutant un peu, en brodant, pas en paraphrasant. Mais en même temps, on s'aperçoit que ce Clemens a aussi une bonne culture hellénistique. Donc ça devait être un pagano-chrétien, mais suffisamment cultivé pour très bien connaître aussi les ressorts finalement d'une communauté judéo-chrétienne. Et globalement, s'il était chef de la communauté de Rome, on le comprend bien, parce que à Rome, il y avait énormément de judéo-chrétiens, évidemment. La communauté juive avait été évangélisée par Pierre, Paul, etc. Et puis, énormément de païens qui étaient aussi devenus chrétiens. On pense que déjà, à l'époque de Clément, il y a des membres de la famille impériale qui sont réceptifs, disons, au kérigme, donc qui ont déjà été touchés, approchés par des chrétiens. Alors, tout d'abord, il montre les méfaits de la jalousie au temps biblique. Alors, vous avez toutes sortes de... Bah, évidemment, Abel et Caïn, etc. Mais aussi... plus récemment, la communauté de Rome. Et c'est justement le paragraphe 5 que je vous ai reproduit. Alors, je le lis. Mais laissons les exemples des anciens. Alors, vous voyez, on ne peut pas parler plus romain que ça, hein, les exemplats. Donc, mais laissons les exemples des anciens. Et passons aux héros qui nous touchent de tout près. Prenons les généreux exemples que nous ont donnés des hommes de notre génération. C'est à cause de la jalousie et de l'envie que les plus grands et les plus justes d'entre eux, les colonnes, ont subi la persécution et combattu jusqu'à la mort. Oui, regardons les saints apôtres. Pierre, victime d'une injuste jalousie, subit non pas une ou deux, mais de nombreuses épreuves, et après avoir ainsi rendu son témoignage, il s'en est allé au séjour de la gloire où l'avait conduit son mérite. C'est par suite de la jalousie et de la discorde que Paul a montré quel est le prix de la patience. Chargé sept fois de chaînes, exilé, lapidé, il devint héros du Seigneur au levant et au couchant et reçut pour prix de sa foi une gloire éclatante. Après avoir enseigné la justice au monde entier jusqu'aux bornes du couchant, il a rendu son témoignage devant les autorités et c'est ainsi qu'il a quitté ce monde pour gagner le lieu saint, demeurant pour tous un illustre modèle de patience. Vous voyez, sur la fin des apôtres, nous n'avons à peu près rien dans les écrits canoniques. On sait juste que les actes des apôtres se terminent avec l'accueil de Paul qui s'est remis de son naufrage de Malte et qui arrive en Italie. On sait que dans l'Épître aux Romains, dans la lettre qu'il avait écrite aux Romains, il parlait de son projet d'aller en Espagne. Oui, mais on n'en sait rien. Et là, vous voyez, à travers cette lettre de Clément, on voit, on nous dit, il devint le héros du Seigneur du Levant, il vient de l'Orient, au couchant, l'Occident, mais l'Occident de l'Occident, c'est l'Espagne. Et etc. Après avoir entendu, il a rendu son témoignage jusqu'aux bornes du couchant. Les bornes du couchant, hein, ce sont les colonnes d'Hercule. Hein, alors, ou bien c'est Gibraltar, c'est pas impossible parce que le meilleur moyen de se déplacer à l'époque c'était la mer. Donc c'est pas impossible qu'il soit allé, voyez, du côté de Gibraltar. S'il avait fait naufrage à une deuxième fois. À Gibraltar, il y aura encore certainement tout un sanctuaire comme à Malte. Mais enfin, en tout cas, ce n'est pas impossible qu'il soit allé jusqu'à Gibraltar. Apparemment, vous voyez, Clément semble le dire, là. En tout cas, qu'il soit allé en Espagne comme il l'avait, souhaité, comme il l'avait dit aux Romains. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir alors, aussi qu'ils sont appelés les colonnes. Vous voyez, quand on dit que Pierre et Paul sont les colonnes de l'église de Rome, ben on en a l'attestation dans ce texte de Saint Clément, c'est la première attestation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui s'est passé visiblement à Corinthe et où Clément intervient, s'est passé aussi à Rome. Il y a certainement dû y avoir des disputes entre judéo-chrétiens et pagano-chrétiens. Dans le climat de délation et de persécution de l'empereur Claude, vous savez que Claude bannit les juifs de Rome à un moment. Alors les juifs ont très bien pu se dire, on est banni, c'est à cause de l'agitation des chrétiens qui sont aux périphéries de la... Vous savez, donc les chrétiens avaient été éjectés de la synagogue, donc ils s'agitaient... ils avaient été repérés, du coup, comme les Romains ne comprenaient pas très bien en quoi ils étaient différents des Juifs, donc en fait, ils reportaient sur les Juifs leur aversion pour les chrétiens. À un moment, Claude bannit les Juifs. D'ailleurs, quand Paul est encore en Grèce, il y a des réfugiés de Rome qui vont en Grèce, la Priscille Aquila, je crois bien. C'était des Romains, enfin des Juifs romains qui sont réfugiés en Grèce. Et puis après, avec Néron, etc., il y a certainement la persécution a fait que, par exemple, peut-être des pagano-chrétiens ont dénoncé des judéo-chrétiens ou inversement, vous voyez. Et donc, l'espèce de jalousie que dénonce jalousie invidia que dénonce Clément, et ben elle est chez les Corinthiens. Il dit ben voilà, chez nous ça s'est passé aussi, hein, et ça a été la cause de la perte des deux colonnes de l'Église. Alors chez nous, ce qui est une perte est toujours un gain aussi, comme dit saint Paul. Il le dit, il s'en est allé au séjour de la gloire où l'avait conduit son mérite pour Pierre et pour Paul. C'est ainsi qu'il a quitté ce monde pour gagner le lieu saint, demeurant pour tous un illustre modèle de patience. Donc, mais néanmoins, les deux apôtres ont été victimes probablement non seulement de la méchanceté des païens, mais aussi peut-être trahis par les dissensions régnant au sein de la communauté. Donc, hein, vous voyez, on parle de Mgr Castet qui a des problèmes avec son clergé. On est exactement dans le même problème il y a 19 siècles. Hein. C'est exactement ça. Hein. C'est les diacres qui sont déposés par... Les presbytes qui sont déposés par des diacres, l'évêque de Corinthe qui n'arrive pas à remettre de l'ordre dans son diocèse, au point que c'est la communauté de Rome qui doit intervenir. Donc, on est un peu dans cette perspective. Alors, la solution que donne Clément, Eh bien, c'est qu'il faut se repentir et imiter les fidèles de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors là, vous avez tout un commentaire, un appel au repentir qui est les sections 7 et 8. Puis ensuite, obéir à Dieu en pratiquant les vertus, etc. Et il nous dit que l'obéissance et la concorde nous assurent la tendresse de Dieu, sa bienveillance. D'ailleurs, dit-il, le jugement est proche et nul n'échappera à la sentence divine, tandis que la bénédiction se répandra sur les justes. Repentir, imiter les fidèles dans l'Ancien Testament, c'est les sections 8-20. Ensuite, obéissance et concorde, 21-32. Et ensuite, le jugement, 33-37. Et après, donc, toutes ces considérations générales et cette relecture de l'Ancien Testament, un peu à la lumière du Nouveau, ce qui est très, très juif, eh bien, Clément en vient au sujet qui a motivé sa lettre, les devoirs que doit remplir la communauté de Corinthe, touchant les offices, les offrandes, la hiérarchie des presbytres et des diacres, l'ordination de l'évêque et l'unité du corps ecclésial. Ça, vous avez ça dans les sections 37 à 48. Alors, c'est là qu'on voit que déjà à la fin du 1er siècle, on a une structure tripartite pour le sacrement de l'ordre. Par exemple, il raconte un peu l'évangélisation. C'est le paragraphe 42. Les apôtres ont reçu pour nous du Seigneur Jésus-Christ la bonne nouvelle, tandis que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Donc le Christ vient de Dieu, les apôtres du Christ. Ces deux choses ont donc eu lieu en bon ordre selon la volonté de Dieu. Aussi, après avoir reçu des préceptes, après avoir été rempli d'assurance par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et avoir eu foi dans le Verbe de Dieu avec l'assurance de l'Esprit-Saint, et quand même, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité, elle est claire très claire dans le... ils sont sortis annoncer que le royaume de Dieu allait venir. Dans les campagnes et les cités, en faisant leurs proclamations, ils établissaient les prémices en les mettant à l'épreuve par l'Esprit, comme épiscope et diacre de ceux qui allaient croire. Épiscope et diacre. Vous voyez, on est bien dans la structuration pagano-chrétienne. Et c'est normal, puisque là, on est dans l'évangélisation en dehors de la Judée. Et cela n'était pas une nouveauté. En effet, c'est depuis bien longtemps qu'il était écrit au sujet des épiscopes et des diacres, car l'Écriture dit quelque part « J'établirai leurs épiscopes dans la justice et leurs diacres dans la foi. » Bon, en tirant un peu... parce qu'il cite de mémoire, évidemment. C'est plus ou moins nombre 12-7. Et surtout, c'est Hébreux 3-5. Hébreux, c'est plutôt le Nouveau Testament, vous voyez. Ensuite, il parle de la querelle avec à cause des épiscopes. Il parle ensuite des anciens. Et il exhorte la communauté de Corinthe à partir donc du paragraphe 46. Et c'est là justement qu'on s'aperçoit qu'on est dans la littérature subapostolique. Parce qu'il va en appeler à qui ? Pas simplement à l'Ancien Testament qu'il cite abondamment, puisque la moitié de la lettre, ce sont des citations de bibliques. Mais il en appelle directement à saint Paul. Il dit, par exemple, au numéro 47, « Reprenez la lettre du bienheureux apôtre Paul. Que vous a-t-il écrit d'abord au début de la bonne nouvelle ? En vérité, il vous a écrit avec l'esprit au sujet de lui-même, de Céphas et d'Apollos, car alors vous aviez des inclinations pour telle ou telle, donc vous étiez déjà divisé. Mais cette inclination vous apportait une moindre faute. En effet, vous incliniez vers des apôtres confirmés et un homme éprouvé par eux. Maintenant, au contraire, considérez qui vous a dévoyé et a diminué la dignité de votre fraternité renommée. Il est honteux, mes bien-aimés, tout à fait honteux et indigne du mode de vie en Christ, d'entendre dire que la très ferme et très ancienne église de Corinthe, fondée en 50, à cause d'un ou deux personnages, est en dissension avec ses anciens. Donc ces anciens qui sont les presbytéroïdes plutôt, on dirait, judéo-chrétiens. Et ce bruit est parvenu non seulement jusqu'à nous, mais aussi à ceux qui ont d'autres inclinations que nous, si bien que des blasphèmes sont encore portés contre le nom du Seigneur du fait de votre folie, et cela vous met en outre en danger. Donc autrement dit, le christianisme essaie de montrer qu'il est la communauté liée par la charité, et ça vient aux oreilles des païens que vous vous détestez les uns les autres, que vous êtes en pleine dissension, et donc ça fait blasphémer les païens contre le nom chrétien. Et en plus, ça vous met en danger, parce que l'autorité romaine, quand elle voit du désordre, eh bien, elle est assez, encline à intervenir, à sévir. Alors donc, après, il supplie les Corinthiens, notamment les diacres fautifs, de se repentir. Alors, il cite après, il cite tant de personnages de l'Ancien Testament, etc., etc. Donc, vous voyez, l'idée dans ce texte, c'est que ce qui est le bien le plus précieux des chrétiens, finalement, c'est la charité. Et la charité, elle se manifeste dans l'unité, dans la concorde de la communauté. Et quand on parle de concorde, on est aussi tout à fait... La concorde, c'est le terme maître de la philosophie politique romaine. Hein. Autrement dit, quand les chrétiens se font, à l'époque, attaquer en disant que ce sont des mauvais citoyens, etc., etc., en fait, ils essaient de montrer qu'en vivant de charité, ils participent à la concorde de la cité, et même qu'ils y participent mieux que les autres, puisque leur charité va jusqu'au sacrifice. Et alors là, précisément, les dissensions dans la communauté ruinent la prétention chrétienne dans ce qu'elle a de plus profond. Donc après, il va faire tout un développement sur la charité, sur le repentir, et va demander à que les fautifs se désignent se réconcilient avec ceux qu'ils ont offensés.
C'est des fautifs et des fautives ou uniquement des fautifs?
Ah, des fautifs, non, c'était des diacres.
Non, oui. Non, mais l'église, la communauté, il y avait des...
C'est-à-dire que probablement ces diacres avaient dû entraîner avec eux d'autres personnes. Donc ça fait des parties. Mais comme disait Clément, à l'époque de Saint Paul encore, vous pouviez faire des parties, parce que certains avaient entendu la prédication de Pierre, d'autres avaient entendu la prédication de Paul, d'autres d'Apollos, etc. Et donc, d'une certaine manière, et puis alors, les prédications devaient être un peu différentes, hein, il faut dire qu'ils ne s'étaient pas concertés avant. Donc certains disaient, oui, mais c'est ça qu'il faut croire, d'autres disent, non, c'est autre chose. Donc à l'époque, 50 ans plus tard, ils sont quand même arrivés à une plus grande unité dans la règle de foi. Et les dissensions, elles sont plus des jalousies que le simple fait que des gens viennent d'horizons différents. Et donc c'est là où Clément dit que c'est plus grave. Et alors il termine. Alors il y a un résumé de la lettre. Il termine par les 4 derniers points. C'est un résumé. Je vous cite le début du résumé. Et point 62.1.2, il dit « Nous vous avons entretenu, mes frères, les exigences de notre religion et des moyens de faire vivre dans la droiture ceux qui veulent fonder leur existence sur la piété et la justice. Nous avons traité de la foi, du repentir, de la véritable charité, de la modération, de la chasteté, de la patience. Nous avons rappelé le devoir où vous êtes de plaire au Dieu Tout-Puissant par une vie sainte, juste, sincère, généreuse. Restez dans la concorde, en oubliant les injures, et dans l'amour, la paix. Persévérez dans la douceur, comme les pères dont nous vous avons cité l'exemple. Ils plurent parce qu'ils étaient humbles devant le Père, notre Dieu et Créateur, et devant les hommes. Vous voyez, un beau texte. Hein. Et précédé par une prière. Alors que je vais vous lire, c'est la prière que j'ai mise sur le...